Vous écoutez RTL.
RTL 18h. RTL Soir, Bernard Poirette.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce RTL Soir du vendredi. Nous sommes ensemble pour 2 heures, les 3 derniers quarts d'heure étant, vous le savez, consacrés à refaire le monde avec les polémistes. Et tout de suite, voici la première édition du journal. Elle est présentée par Isabelle Choquet. Isabelle, bonsoir.
Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Ni vainqueur ni vaincu dans le premier match judiciaire de l'héritage Hallyday, Laura et David obtiennent le gel des biens immobiliers français de leur père, mais pas de droit de regard sur son album posthume. On vous explique tout dans un instant. Édouard Philippe et Gérard Collomb sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. L'opération d'évacuation est terminée. L'heure est au déblaiement et à la régularisation pour ceux qui le souhaitent.
Notre premier invité à 18h20, Astérix, c'est son surnom. Sylvain Fresnaud est éleveur à Notre-Dame-des-Landes. Il cohabitait fort bien avec les zadistes. Comment juge-t-il la manière forte qui a été employée depuis lundi, là-bas?
L'actualité de ce vendredi, ce sont aussi les départs en vacances. Pour la première fois, c'est un jour de grève à la SNCF et ce sera pareil demain. À suivre également, le fromage qui tue, une contamination à la salmonelle dans des produits au lait cru a fait 10 morts en quelques mois en 2015. L'OM gagnant au tirage, les Marseillais affronteront Salzbourg en demi-finale de la Ligue Europe. Et puis, vous aussi, vous aurez peut-être de la chance au tirage. C'est vendredi 13 aujourd'hui. Si vous préférez jouer en bourse, Paris finit en petite hausse ce soir de 0,11% à 5 315 points.
À la fin du journal, la question de l'actualité. Emmanuel Macron supprime une taxe sur les PME pour doper l'intéressement des salariés. Mode d'emploi du système. Juste avant 18h30, nous irons dans les coulisses de la réception qui a été donnée cet après-midi à l'Élysée. Réception pour les médaillés de Pyeongchang par le président Macron. Juste après 18h30, encore lui, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron et le risque de la violence sociale. C'est le thème choisi ce soir par Olivier Mazerolle. Et puis Miu Miu avec nous. L'actrice joue une mère de famille larguée par son mari que ses deux filles emmènent à la plage pour tenter de la sauver du désespoir. Ça s'appelle Larguée. C'est désopilant. C'est à voir mercredi prochain. 18h50 RTL Monde et puis la météo de ce soir, Patricia Charbonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Alors demain, nous aurons un temps encore très instable sur la France avec pas mal d'averses.
Oui, le temps toujours très changeant avec alternance d'averses et d'éclaircies et ces averses seront soutenues dès demain matin sur le nord-ouest du pays jusqu'à l'estuaire de la Gironde et dans l'après-midi, nous aurons plus des averses qui prendront un caractère orageux entre les Hauts-de-France, la Normandie, l'Île-de-France, le Centre-Val-de-Loire et le Massif Central. Le temps sera plus calme près des frontières de l'Est, ce sera assez nuageux le matin mais dans l'après-midi, on retrouvera de belles éclaircies avec des températures toujours très douces, 6 à 11 degrés pour demain matin et 14 à 21 dans l'après-midi.
Merci Patricia.
RTL Soir.
Première confrontation ce jour dans la bataille judiciaire sur l'héritage de Johnny Hallyday. Et pour l'instant, Isabelle, on peut dire que c'est un match nul.
Laura Smet et David Hallyday réclamaient le gel des biens immobiliers de leur père et un droit de regard sur son album posthume. Le tribunal de Nanterre a rendu sa décision en début d'après-midi. Bonsoir Jean-Alphonse Richard.
Bonsoir.
Les deux aînés de Johnny ont obtenu gain de cause sur un point. Les biens français du chanteur ne peuvent pas être vendus.
Oui, et seulement les biens français, c'est-à-dire la maison de Marne-la-Coquette et la villa de Saint-Barth, le tribunal estime réel le risque de voir transférer ses biens dans le trust qui gère la fortune de Johnny, vente interdite donc. En revanche, les deux demeures du chanteur à Los Angeles et Santa Monica, dont Laura et David demandaient également la mise sous séquestre, échappent à ce gel immobilier. Le tribunal estime, je cite, que ces mesures conservatoires ne doivent pas avoir de conséquences excessives et disproportionnées pour Laetitia. Pas question donc de la priver de la résidence où elle vit avec ses filles.
En revanche, Jean-Alphonse, Laura et David n'ont pas obtenu de droit de regard sur le dernier album de Johnny.
Oui, là c'est un rejet. Ici, le tribunal explique qu'il n'y a pas lieu pour les enfants de se faire communiquer les 10 titres de l'album ou même de les écouter, tout simplement parce que le contrat signé entre Johnny et Warner est sans ambiguïté. Le chanteur avait régulièrement validé les chansons. L'album pourra être commercialisé. Mais attention, les droits artistiques de Johnny sont gelés, mesure qui était d'ailleurs déjà effective depuis le début de cette guerre autour de l'héritage.
Et maintenant, prochaine étape?
Alors, à un autre tribunal de trancher la question centrale, celle de l'héritage. Quel droit français ou californien doit s'appliquer? Il faudra cette décision pour être fixée sur la succession. Des années de procédure, sauf arrangement qui n'est pas, pour l'instant, à l'ordre du jour.
Les explications RTL de Jean-Alphonse Richard. L'avocat de Laetitia Hallyday a fait savoir qu'il était satisfait après cette décision. La volonté de Johnny Hallyday a été respectée, dit-il. Satisfaction aussi de l'avocat de Laura Smet. Il évoque une première étape qui s'enclenche d'une manière favorable.
Donc tout le monde est satisfait. Direction maintenant Notre-Dame-des-Landes. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont sur place depuis 1h30.
Les évacuations sont terminées sur la ZAD. Les gendarmes s'emploient maintenant à dégager les axes routiers. La préfète des Pays de la Loire donne un nouveau délai de 10 jours aux zadistes pour déclarer leur projet, même les expulser. Elle leur propose même un formulaire simplifié pour régulariser leur situation. C'est dans ce contexte qu'Edouard Philippe et Gérard Collomb sont arrivés sur zone en milieu d'après-midi. Bonsoir Benjamin Sportouche.
Bonsoir.
On sent quand même une forte mobilisation du gouvernement sur ce dossier aujourd'hui.
Oui, clairement une visite surprise du Premier ministre et de son ministre de l'Intérieur pour, je cite, faire un point sur les opérations d'évacuation qui ont eu lieu depuis lundi et saluer les personnels qui ont été engagés, bien sûr les gendarmes blessés dans ces actions, mais aussi pour clarifier la situation. Des heurts ont encore eu lieu aujourd'hui, alors que hier même, le chef de l'État sur TF1 a semblé indiquer la fin de l'opération. Ce qu'a d'ailleurs confirmé Nicolas Hulot, le ministre de l'Écologie, très discret jusque-là, a appelé les derniers zadistes à la raison.
Un seul message, il faut savoir arrêter un combat qu'on a gagné. Pour éviter un drame, il faut à un moment ou à un autre que tout le monde se calme. On peut faire vraiment une sortie par le haut. Le combat que certains menaient est abouti.
Alors, que tout le monde se calme, le Premier ministre répétera certainement ces mots. Il doit prendre la parole d'une minute à l'autre à Notre-Dame-des-Landes. L'enjeu est d'importance, vous l'avez compris, montrer que l'État a toujours la main et surtout qu'il ne s'enlise pas.
Merci beaucoup Benjamin Sportouche. Je vous rappelle que dans un quart d'heure, nous serons en ligne de Notre-Dame-des-Landes avec Sylvain Fresneau, qui est un opposant historique à l'aéroport et qui est un ami des zadistes. Il nous dira comment il juge ce qui se passe là-bas depuis 4 jours. Y aura-t-il un deuxième jour férié travaillé comme le lundi de Pentecôte ? L'idée, Isabelle, est dans les tuyaux.
Oui, les personnels des maisons de retraite dénoncent régulièrement le manque de moyens criants de leurs établissements et les répercussions que cela a sur les pensionnaires. La ministre de la Santé a indiqué ce matin que plusieurs pistes étaient à l'étude pour financer la dépendance. Une deuxième journée de solidarité, par exemple, comme celle créée par Jean-Pierre Raffarin en 2004. Réaction de l'ancien candidat socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon.
Pourquoi les salariés seraient la seule vache à lait ? Pourquoi est-ce que les grandes fortunes qui ont vu leur impôt sur la fortune baisser seraient exclues de cette grande cause nationale ? Et pourquoi ceux qui, aujourd'hui, gagnent des salaires parfois modestes, seraient obligés de travailler une journée sans être payés pour être solidaires ? Alors moi, sur le principe, la solidarité, j'ai pas de problème. Moi, je considère aujourd'hui qu'il faut aller regarder du côté de ceux qui peuvent payer, qui ne sont pas des petits retraités, qui ne sont pas des petits salariés, qui sont aujourd'hui mis, par contre, eux, systématiquement à contribution par ce gouvernement.
Benoît Hamon au micro RTL de Julien Fautra. La grève à la SNCF, pour la première fois depuis le début du mouvement, les 2 jours de grosses perturbations tombent en plein départ en vacances.
Oui, début des congés scolaires pour la zone C, c'est-à-dire la région parisienne, Toulouse et Montpellier. La zone A attaque sa deuxième semaine. Bref, c'est un week-end de transhumance. Alors c'est vrai, le trafic est un peu moins perturbé que lors des 2 précédents épisodes, mais tout de même, c'est un peu court. Caroline Thimène, vous êtes à la gare de Lyon pour RTL. Visiblement, les voyageurs se sont organisés.
Oui, l'ambiance est plutôt sereine ici. La plupart des voyageurs ont été prévenus par un SMS ou un mail. Ils ont donc pris leur disposition. C'est le cas de Virginie. Elle a récupéré ses 4 enfants à midi à l'école pour pouvoir prendre le seul train qui circule cet après-midi direction Chambéry.
Le seul train possible étant vers 4 heures, ce qui impose que les enfants n'aillent pas à l'école le vendredi après-midi, ce qui est quand même pour les enseignants pas très sympa. C'est un départ complètement aménagé et on fait en fonction de ce que veut bien nous dire la SNCF.
Les gilets rouges sont nombreux en gare pour conseiller et apaiser les voyageurs comme Florian et sa petite amie. Leur train a été annulé. Ils patientent café à la main pour rentrer à Dijon.
On a dû reprendre un billet de train pour au final arriver à Dijon à 19h30 au lieu de 17h. C'est un peu pénible, c'est un peu contraignant, parce que surtout qu'on devait aller travailler après. On va quand même passer des bonnes vacances, on va pas avoir que du négatif, quoi.
Ici, gare de Lyon, même si la mobilisation était moins importante, seulement 33 trains ont circulé aujourd'hui contre 200 habituellement.
Merci Caroline Thimène en direct de la gare de Lyon pour RTL. Alors, faute de train, vous vous êtes peut-être rabattu sur la voiture. Eh ben, mauvaise pioche. C'est orange en Ile-de-France dans le sens des départs et même ça tire sur le rouge, Sébastien Datte.
Oui, la carte du trafic autour de Paris est même écarlate avec actuellement 430 km de bouchons cumulés. C'est 100 de plus qu'un vendredi normal. Alors, c'est compliqué partout, plus particulièrement sur l'A13 en direction de la Normandie ou encore sur les autoroutes A6 et A10 au sud de la capitale. Ailleurs, trafic ralenti autour de Toulouse où les congés commencent, ou encore à Bordeaux pour le début de la deuxième semaine de vacances. Enfin, si vous allez dans les Alpes, prudence et patience sur l'A7 dans la vallée du Rhône, autour de Grenoble, de Lyon, puis sur l'A43 en direction de Chambéry. Le conseil pour éviter les bouchons ce soir, c'est de prendre la route après 20h.
Merci Sébastien Datte. Demain, c'est encore une journée de grève à la SNCF. Prévoyez à peu près comme aujourd'hui un TGV et un TER sur 3, 2 transiliens sur 5 et 1 intercité sur 5. Et puis cet après-midi, une manifestation a rassemblé plusieurs centaines de personnes à Paris, des cheminots, mais aussi des étudiants, des postiers et des personnels de santé, une tentative de convergence des luttes.
On marque une pause dans le journal d'Isabelle Choquet et ensuite nous parlons des dangers du fromage au lait cru. Il y a tout de même eu 10 victimes, 10 morts en quelques mois. A tout de suite.
RTL Soir, 18h12, Bernard Poiret, et pour la suite du journal, Isabelle Choquet.
Isabelle, les fromages au lait cru ont fait 10 morts en quelques mois, entre 2015 et 2016 précisément, en cause la salmonelle.
Oui, 10 morts et près de 80 malades. Tous avaient consommé des fromages fabriqués en Franche-Comté, notamment du Morbier et du Mont-d'Or. 5 fromageries ont été mises en cause. Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
On ne l'apprend que maintenant et pourtant ce n'est pas vraiment une affaire qui a été étouffée.
Non, puisque dès le mois de janvier 2016, l'Institut de veille sanitaire donne l'alerte après avoir constaté un nombre anormal de contamination dans tout l'Hexagone et particulièrement en Franche-Comté. 92 cas au total seront recensés en 5 mois. On compare alors la consommation alimentaire des personnes touchées avec une population témoin et c'est alors qu'apparaît un lien probable avec le fromage au lait cru du Morbier donc et du Mont-d'Or. Alors pourquoi n'y a-t-il pas eu de rappel? Eh bien d'abord parce qu'il a été très difficile, selon la Direction Générale de l'Alimentation, d'identifier tous les producteurs de fromage contaminés. Il n'y avait pas qu'une seule marque en cause. Ensuite, parce que les lots contaminés n'étaient plus en vente lorsque les enquêtes ont été terminées. Tous ces fromages avaient en effet été consommés et l'épidémie s'est arrêtée toute seule. Depuis, les contrôles effectués par les producteurs eux-mêmes ont été considérablement renforcés. Il n'y a pas eu d'autres crises depuis celle-ci, la plus grave tout de même de ces 10 dernières années. Il faut ajouter également qu'on enregistre en moyenne en France 70 décès tous les ans dus à des contaminations à la salmonelle.
Explication de Dil Pouget pour RTL. Passons au football, Isabelle. Marseille, pourrait-on dire, a donné le meilleur et évite le pire.
Après leur qualification flamboyante hier face à Leipzig, les Marseillais vont affronter un autre club allemand, Salzbourg, en demi-finale de la Ligue Europe. Un adversaire qui semble à leur portée, Sylvain Charlet.
Oui, et au sein du club marseillais, en fait, tout le monde le pense, mais personne ne le dira. Affronter les Autrichiens de Salzbourg est la meilleure chose qui pouvait arriver aux joueurs olympiens. L'OM évite ainsi les deux favoris pour le sacre final, que sont l'Atlético Madrid et Arsenal. Et sur le sujet, le meilleur dans l'exercice de la langue de bois n'est autre que le coach Rudy Garcia.
Que ce soit Atlético de Madrid, Arsenal ou Salzbourg, c'est une grosse équipe. Quel que soit le tirage, ça ne change pas notre ambition. Notre ambition, c'est d'aller en finale. Voilà, ça va être une demi-finale de Coupe d'Europe. C'est juste très, très excitant à jouer.
Et pas question de prendre à la légère cette formation de Salzbourg. Les deux équipes s'étaient affrontées lors de la phase de groupe. Et Marseille n'avait jamais réussi à s'imposer en deux matchs. Et n'oublions pas qu'avant de se frotter à l'OM en demi-finale, Salzbourg a écarté de son chemin deux solides outsiders à la victoire finale, le Borussia Dortmund et la Lazio de Rome.
Merci Sylvain Charlet. En Ligue des Champions, on aura une finale avant l'heure. Le Real Madrid va affronter le Bayern Munich. L'autre demi-finale, c'est Liverpool contre l'AS Rome.
Et si vous êtes superstitieux, ça n'a pas pu vous échapper. Nous sommes aujourd'hui vendredi 13.
Et comme toujours dans ces cas-là, les joueurs sont au rendez-vous. La Française des Jeux se frotte les mains. Marie Mollet, vous avez pris la température dans un bar tabac. Est-ce que c'est vraiment une affaire de superstition?
Écoutez, en tout cas, Lou y croit dur comme fer du haut de ses 8 ans.
Ce matin, je suis allée faire un examen. Et puis, comme ça s'est bien passé, je me suis dit, tiens, peut-être que vendredi 13, c'est finalement un jour de chance et pas un jour de poisse. Parce que c'est un jour que j'aime pas du tout en général. C'est un jour où il faut faire un peu plus attention, éviter certaines prises de décision. Ou si ça tombe mal, c'est pas bien, donc on le fera demain.
Alors, pas question de croire à ces balivernes, Jules, Gérard et Nicole, qui disent-ils sont comme saint Thomas, ils ne croient que ce qu'ils voient.
Ah non, vendredi 13, non, j'y crois pas. On n'est pas superstitieux. Comme les gens qui ils doivent pas ouvrir le parapluie dans la maison parce que ça porte malheur, moi ça m'est égal, moi.
Moi, je joue deux fois la semaine, j'ai joué la même chose. Les dates de naissance de mes petits-enfants, et puis voilà.
Pas superstitieux pour un sou, en tout cas pas pour l'instant. La seule chose qui pourrait les convaincre, disent-ils, c'est de remporter le gros lot et ses 13 millions d'euros.
Reportage RTL de Marie Mollet. Si vous y croyez, sachez que le prochain vendredi 13, c'est en juillet, puis après c'est tout pour cette année.
Et là c'est tout pour le journal de 18h, mais vous revenez à 18h30.
Je reviens comme les vendredis 13.
Merci beaucoup.
Je porte bonheur.